de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Maintenant, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Salut, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Au quatrième trimestre 2020, le gouvernement a commencé à construire une nouvelle capitale. L'exposition de tissage et de sonquette de plusieurs centaines d'années du royaume de l'archipel. L'année prochaine, 70 ans de relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Vatican. Labuan Bajo sera l'hôte du sommet de la SEAP. Le ministère du Tourisme cible le tourisme en devises étrangères de 294 milliards roupiahs en 2020. La Thaïlande ouvrira une industrie de transformation du thon à Surabaya. Voici le journal complet. Le ministre indonésien des Travaux publics et du Logement public, Basuki Hadi Mulyono, a assuré que la construction de la nouvelle capitale serait débutée au quatrième trimestre de l'année prochaine. Premièrement, selon Basuki, le gouvernement va d'abord construire des infrastructures de base. Basuki Hadi Mulyono a déclaré mercredi qu'en plus de construire des infrastructures de base, le gouvernement construirait également plusieurs bâtiments tels que des établissements de santé et d'éducation. Selon lui, actuellement, le gagnant de la conception de la nouvelle capitale d'État a été fixé. Plus tard, les trois participants à la conception de la nouvelle capitale se réuniront pour mettre en synergie leurs idées. 17 royaumes de l'Indonésie, qui sont les membres du Forum de Kraton de l'Indonésie, ont exposé des tissus tissés et des sonquettes en héritage ancestral qui a des centaines d'années qui ont eu lieu à Jakarta récemment. La coordinatrice de l'exposition de tissage et de sonquettes d'héritage, Intan Dewi Rumbinang, à Jakarta, a déclaré mercredi qu'elle a initié l'exposition de tissus tissés et de sonquettes d'héritage du Royaume de l'Indonésie dans le cadre de la grande finale de la compétition des hommes et des femmes de tenun indonésien 2019. L'exposition a été participée par 17 royaumes qui sont les membres du Forum de Kraton d'Indonésie, a présenté son de tissage et son quête qui ont des centaines d'années et toujours bien entretenu. Le tissage son quête comprend des tissus du sultanat de Bima et du kedatuan Patoko Sopeng, Sulawesi du Sud. Intan Dewi Rumbinang espère qu'à travers cette exposition, la communauté, en particulier la jeune génération, sera mieux éduquée sur le tissu tissé et le son quête en tant que patrimoine culturel des ancêtres du peuple indonésien. En 2020, 70 ans de relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Vatican. Le Vatican occupe une position stratégique pour l'Indonésie dans le contexte du renforcement de la diplomatie culturelle, touristique et éducative. L'ambassadeur d'Indonésie au Vatican, Antonius Agus Riono, a déclaré à Radio République Indonésia que le pape François avait accordé suffisamment d'attention positive au gouvernement indonésien pour défendre les valeurs humaines et la tolérance parmi les religieux. Le pape est très ouvert pour dialoguer avec diverses composantes de la société représentant la diversité de l'Indonésie, telles que des figures de Nahdlatul Ulama ou NU, il y a quelque temps, ont eu une audience avec le Vatican. Actuellement, selon l'ambassadeur d'Indonésie au Vatican, Agus Riono, la visite des catholiques au Vatican continue d'augmenter, en particulier à l'approche des fêtes de Noël et des Pâques. L'existence des religieuses indonésiennes exerçant leurs fonctions au Vatican a une influence positive dans le contexte du renforcement des relations diplomatiques du Vatican en Indonésie. Le ministre de la Coordination des Affaires Maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que Labuan Bajo à l'est de Nusa Tenggara devait être candidat à l'emplacement du sommet de la CEAP ou du sommet du G20 en 2023. Pour cela, selon lui, il se rendra à Nusa Tenggara Est pour voir le potentiel de l'endroit. Luhut Panjaitan a déclaré que l'Indonésie continue de profiter de cette bonne occasion pour organiser un certain nombre d'événements mondiaux importants. Après avoir accueilli avec succès les Jeux Asiatiques et la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale en 2018, l'Indonésie cible également d'autres programmes internationaux, notamment les Jeux Olympiques de 2032. L'Indonésie se proposera également d'accueillir le sommet de la CEAP 2024, le sommet économique du G20 2023 et le président de l'ASEAN 2022 comme carte des solutions diplomatiques à l'avenir. Le ministre du Tourisme, Wisnu Tama, cible les devises étrangères du secteur du tourisme à atteindre 21 millions de dollars américains, soit environ 294 milliards rupiah l'année prochaine. Wisnu Tama a expliqué à Jakarta mercredi que ses revenus pourraient être augmentés par les 5 nouveaux balis qui sont devenus le tourisme prioritaire du gouvernement. Il a déclaré que la priorité du gouvernement est de maximiser le rôle des 5 super priorités. Le gouvernement travaille actuellement sur ces 5 régions afin d'attirer l'attention des touristes. Les 5 super secteurs prioritaires sont les plus importants. Pour cette année, selon Wisnu Tama, le gouvernement cible les recettes en devises du secteur du tourisme à 20 millions de dollars américains. Bien qu'il n'ait pas été en mesure de préciser quels secteurs peuvent soutenir cet objectif, mais il pense que l'objectif peut être atteint. La Thaïlande ouvrira l'industrie de transformation du thon Loin à Surabaya dans l'est de Java, ce qui indique un investissement accru dans la transformation des pêches provenant de l'étranger vers l'Indonésie. Le ministre indonésien des Affaires maritimes et de la pêche, Edi Prabowo, a déclaré dans un communiqué de presse reçu par l'agence de presse Antara à Jakarta mercredi que cela était conforme à l'engagement du gouvernement à établir une communication avec les entreprises qui sont au cœur de la durabilité de l'industrie de la pêche, y compris via des investissements étrangers. Edi a ajouté que le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a salué le plan d'investissement thaïlandais et le facilitera. Edi Prabowo a déclaré que l'Indonésie avait la première priorité d'apporter du poisson frais de l'est de l'Indonésie à l'industrie de transformation. L'objectif est d'apporter une valeur ajoutée aux produits de la pêche afin qu'ils contribuent à l'amélioration du bien-être de la communauté. Serge Tard, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Serge Moulantin, pour la rubrique suivante, voici donc le commentaire et encore le titre « Les changements météorologiques à la fin de l'année doivent être veillés ». Décembre est le dernier mois à la fin de 2019 et ce dernier mois connaît généralement la saison des pluies. Pour 2019, la saison des pluies en Indonésie est plutôt lente car elle devrait commencer en septembre et culminer en janvier-février. Cependant, en raison du climat mondial actuel, la saison des pluies a également changé. La neige éternelle qui a fondu dans le pôle nord et le sud montre le changement de température du monde et aura un impact sur le climat mondial. En Indonésie, en novembre-décembre, il a commencé à pleuvoir et dans certains endroits, les précipitations et les vents forts sont devenus une menace potentielle de catastrophes naturelles. Les changements de début de saison et les changements météorologiques ont eu des effets que nous devons comprendre et connaître du mieux que nous pouvons. Les informations provenant des parties liées doivent être prises en compte. afin que nous puissions être prudents pour faire face aux changements climatiques qui se produisent. Lors d'un séminaire à la mi-décembre, le chef du Centre national de données d'information et des relations publiques de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB, Agus Wibowo, a demandé à tous les chefs de région d'anticiper trois risques de catastrophes entrant dans cette saison des pluies. Les trois risques de catastrophes sont la tornade, les inondations et les glissements de terrain. L'Agence nationale de gestion des catastrophes, ou BNPB, a sorti la lettre circulaire à la fin d'octobre liée à ces trois risques de catastrophes. En outre, les gouvernements locaux sont également invités à surveiller toutes les informations communiquées par l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique. Pendant ce temps, Ahmad Taufan Maulana, chef du bureau des relations publiques de l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique, expliquait que le pic de la saison des pluies devrait se produire en janvier-février 2020. Pendant ce temps, le début de la saison sèche est prévu vers avril-mai 2020 et dure jusqu'en octobre 2020. Taufan a ajouté que, basé sur les mises à jour des prévisions de l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique, les sens des catastrophes hydrométéorologiques ou cyclones tropicaux, les précipitations extrêmes, les cyclones, les vents violents, les vagues extrêmes et le climat de la sécheresse doivent encore se méfier. Outre la mise à jour des données et des prévisions d'experts sur le climat actuel, nous devons anticiper rapidement la météo actuelle. En particulier les glissements de terrain et les inondations, certains endroits ont connu des inondations et des glissements de terrain. De plus, quand ils entrent dans la période des vacances, il faut les anticiper dans les zones touristiques et des routes menant aux zones touristiques. Les parties prenantes concernées doivent être préparées à anticiper cette situation et les habitants de chaque lieu doivent se rendre compte de l'importance de protéger l'environnement afin que les programmes planifiés par le gouvernement puissent se dérouler sans heurts. Serge Tor, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 26 décembre. On commence par le 26 décembre 1908, Jack Johnson, le champion de boxe. Le 26 décembre 1908, Jack Johnson est devenu le premier boxeur noir à remporter le titre mondial des poids lourds. Il a éliminé Tommy Burns, boxeur canadien, au 14e tour de match qui s'est déroulé à Sydney, en Australie. La dissolution de l'Union soviétique. À la fin de 1980, le dernier dirigeant soviétique, Mikhail Gorbatchev, a tenté de restructurer le pays qu'il dirigeait par des politiques de glasnost et de perestroïka. Mais cela a en fait déclenché une scission en Union soviétique qui a finalement officiellement dissoute le 26 décembre 1991. Les droits et obligations du pays ont ensuite été maintenus par la Fédération russe. Le 26 décembre 2004, un tremblement de terre à Aceh a provoqué un tsunami. Aceh a été secoué par un tremblement de terre de magnitude 9,1. Le tremblement de terre a déclenché une énorme vague de tsunami atteignant la Somalie du côté est de l'Afrique. En outre, le tsunami a également frappé quelques pays autour de l'océan Indien. À Aceh, le nombre de morts a atteint 170 000 personnes. Dans plusieurs autres pays, le tsunami d'Aceh a tué 50 000 personnes, portant le nombre total des morts à 220 000. Le grand nombre de décès est dû à l'indisponibilité du système d'alerte précoce au tsunami, de sorte que les habitants n'ont pas eu le temps de se sauver. En fait, l'écart entre le moment du tremblement de terre et du tsunami a atteint plusieurs heures. Voilà l'histoire d'aujourd'hui. Cansado, C'était la chanson intitulée Antara Ada dan Tiada, qui signifie Entre l'air et rien, chantée par Nagita Slavina et Marchanda. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Et la rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Le président indonésien Joko Widodo fixe un rajeunissement de 500 000 hectares de plantations de palmiers à l'huile au cours des trois prochaines années. Ce programme de replantation fait partie des efforts du gouvernement pour améliorer la productivité des plantations communautaires de palmiers à l'huile qui sont actuellement encore très faibles. Cette augmentation de la productivité devrait réduire les dommages environnementaux. Depuis 2017, le gouvernement a commencé à encourager le programme de replantation pour les producteurs de palmiers à l'huile en n'offrant pas de nouvelles terres à utiliser comme terres de plantation. L'objectif est que la production d'huile de palmiers en Indonésie puisse continuer à augmenter et être en mesure de préserver l'environnement. Naturellement, les palmiers à l'huile deviendront moins productifs lorsqu'ils atteindront l'âge de 25 ans. En conséquence, les revenus des producteurs de palmiers à l'huile ont diminué. Le président a déclaré que l'augmentation de la productivité des palmiers à l'huile était également une étape pour continuer à se conformer au moratoire sur les forêts et les tourbières. Selon lui, la productivité des plantations de palmiers à l'huile d'autres pays pourrait atteindre 7 à 8 tonnes, de sorte que l'Indonésie doit également être en mesure de le faire. La productivité des palmiers à l'huile pourra augmenter entre autres par l'utilisation de semences de bonne qualité. Le ministère de coordination de l'économie a déclaré qu'il aurait un plafond pour le crédit aux entreprises, spécialement pour le programme de replantation d'huile de palme. La superficie totale de replantation de palmiers à l'huile qui peut obtenir un financement de crédit court couvre une superficie de 500 000 hectares. Le ministre de coordination de l'économie, Erlangga Hartarto, a déclaré qu'avec un plafond total du crédit aux entreprises en 2020 de 190 billions de rupiah, le plafond de crédit court pour chaque secteur augmentera. Mais l'allocation de détails de crédit court spécifiquement pour la replantation de palmiers à l'huile est encore en discussion par le gouvernement. Outre la replantation de palmiers à l'huile, le gouvernement prépare également un programme de crédit aux entreprises pour la replantation de caoutchouc. Mais il voulait encore préparer un plan de financement pour le crédit aux entreprises de l'huile de palme avant le programme de crédit aux entreprises pour le caoutchouc. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie.
Yang selalu mengalun indah, engkau bagai darah yang mengalir di nadi ini, di dalam hatiku tiada yang lain selain yang aku cinta. Saat ku kuat terjatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkan. Tak
masa lalu membuatmu bahagia, namun ku kan mencoba untuk selalu setia padamu di dalam hatiku. Tiada yang lain selain kamu yang aku cinta.
Voilà la chanson de The Massive dont le titre est Mélodie. Vous êtes toujours avec nous sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voyeuse.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, voici le programme culturel et cette fois-ci nous présentons un rituel traditionnel de Masasar Manurung sur la voici occidentale. Le 17 décembre 2019, le roi de l'Indonésie ont été défilés en utilisant Delman comme chariot pour se rendre à la maison traditionnelle de Mamuju sur la route de Kaistubun, le village de Rimuku, Sulawesi occidental. Ils ont également assisté à la précession Masasar Manurung ou laver le kris. Le kris, c'est-à-dire l'armement traditionnel patrimoine. La procession de Masasar Manurung qui s'est tenue dans la maison traditionnelle de Mamuju était l'un des principaux programmes du festival Maradika Mamuju, qui a eu lieu de 17 au 18 décembre 2019. La procession de lavage de kris patrimoine a été assistée par 93 royaumes en Indonésie, entre autres le roi de Bulungan Kalimantan, le royaume de Goa, le sultanat de Solo, le royaume de Siak Riau, 14 royaumes de Selayar, des représentants de Majene, Mamasa et Bali. Masasar Manurung vient du mot Masasar qui signifie purification et Manurung qui signifie objet royal qui est considéré par la communauté locale comme ayant des pouvoirs surnaturels. Donc Masasar Manurung est une cérémonie rituelle qui se manifeste sous la forme d'un lavage ou nettoyage d'un objet royal. Historiquement, en 1500 après Jésus-Christ, le roi Mamuju Tomé Jameng avait un prince héritier qui s'appelle Patulawulu. Le prince héritier a ensuite été marié à la fille du roi de Badung Bali. Ils ont eu la chance d'avoir un fils qui s'est avéré être un jumeau avec un Christ nommé Manurung. La crise alors appelée Marakdika Tamakanakana, où le roi qui ne parlait pas est devenu l'héritage du royaume Mamuju. Ce Christ est un symbole d'amitié entre les deux royaumes, Mamuju et Badung, Bali. Par conséquent, lorsque ce rituel a eu lieu, la partie du royaume de Badung est également finie. Initialement, le rituel traditionnel Masosor Manurung était pratiqué lorsque le peuple Mamuju avait des difficultés. Alors le roi a ordonné de purifier Christ Manurung. L'eau de procession d'épuration est ensuite répandue dans le jardin, les rizières et la mer. Puis quelques jours plus tard, il pleut afin de surmonter les difficultés de la population de Mamuju à cette époque. Chers auditrices et auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Thank you.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Wheezy dont le titre est « Selamat jalan kekasih » ou en français « Au revoir la main ». Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur, informant sur des étudiants indonésiens qui ont obtenu des résultats à l'Olympiade internationale des sciences. Les étudiants indonésiens vénèrent le nom de la nation sur la scène internationale. Muhammad Adian Davi, un élève de classe 9 du pensionnat islamique Cahaya Ranca Maya, Bogor Java de l'Ouest, a remporté une médaille d'argent à l'Olympiade internationale junior de sciences 2019 à Doha, Qatar, du 3 au 12 décembre 2019. Outre Davi, les réalisations des étudiants indonésiens à l'Olympiade internationale junior des sciences 2019 sont venues de Berwin, Collège chrétien Sipenabur, Christopher Ivan, Collège chrétien Penabur Gading Serpong, Jonathan Chandra, Collège chrétien Calvin, Michael Evan, Collège IPK Puri, et Rafif Dista, Collège Al-Kausar. L'Indonésie a envoyé 6 étudiants sur la scène internationale de l'Olympiade internationale junior de sciences et a remporté 5 médailles d'argent et une médaille de bronze. L'Inde a remporté le plus de médailles avec 6 médailles d'or. L'équipe indonésienne a été l'élève choisi de la sélection de l'Olympiade nationale de sciences ou abrégée en OSN 2019. Davi a pu se qualifier pour l'Indonésie grâce à la compétition de l'Olympiade nationale des sciences. Lors de l'OSN 2019 à Yogyakarta, il a remporté une médaille de bronze et ensuite 30 personnes ont été sélectionnées, puis sélectionnées jusqu'à ce que 6 personnes déterminées représentent l'Indonésie auprès de l'Olympiade internationale junior des sciences à Doha. Le concours de l'Olympiade internationale junior des sciences est un concours scientifique qui introduit et stimule l'intérêt des étudiants dans le domaine des sciences naturelles, y compris la façon de résoudre les problèmes par l'expérimentation, les compétences de pensée critique, la créativité et la collaboration. Le matériel Olympiade internationale junior des sciences de Doha se compose d'échos multiples, d'essais et d'expériences. Le matériel expérimental se composait de 3 participants et cette année, l'Olympiade scientifique junior internationale accueille plus de 400 étudiants de 72 pays, dont l'Australie, la Chine, la France, l'Allemagne, Hong Kong, l'Inde, l'Irak, le Liban, la Malaisie, le Myanmar, les Pays-Bas, les Philippines, le Portugal, la Thaïlande et les États-Unis. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur.
Aku cinta dengan segenap rasa di hati. Selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Mungkin memang benar, cinta itu tak lagi berharga. Semua percuma bila engkau tak punya harta. Aku tahu kau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri.
Voice of Indonesia.
Sebelumnya aku tak percaya aku bisa mencapai puncak dunia. Sebelumnya aku tak percaya aku bisa menggapai bintang-bintang angkasa. Tapi kau selalu ada memberikanku kekuatan untuk terus berjuang menjadi yang terbaik. kaulah alasan aku bisa. Kaulah alasan aku bertahan. Untukmu aku persembahkan semua yang terbaik dariku. Oh, 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 yang terbaik. Untuk hidup di dalam mimpi, dan mimpiku semakin nyata karena kau ada untukku, untukku. Kaulah alasan aku bisa.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée « Kekasih Bayangan » ou en français « L'amant des ombres » chantée par Chakra Khan. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute! Voici le magazine musical et cette édition, je vous présente une chanson de Titiek Puspa. Titiek Puspa, maintenant connue sous le nom de Eang, surnom d'une grand-mère, est chanteuse et compositrice de chansons légendaires d'Indonésie. De nombreuses récompenses qu'elle a obtenues pour ses œuvres au cours de sa carrière. Les albums et chansons qui ont été popularisés ou créés par Titiek Puspa ont reçu une excellente appréciation des musiciens en lançant un album de compilation intitulé From Us to You en 2005. Les musiciens impliqués dans l'album sont Krisha, Iwan Fals, Peter Pan, Serious, Project Pop, Ungu, Naif, Kahitna et Rosa. Tous les musiciens ont chanté ensemble la chanson de Titiek Puspa intitulée « Mari Kemari » qui signifie « Venez ici ». Cette chanson, popularisée en 1980, raconte des sentiments d'une personne qui est amoureuse. Bon, chers auditeurs, écoutons la chanson de Titiek Puspa dont le titre est « Mari Kemari » qui signifie « Venez ici ». Bonne écoute!
Thank you.
Voice of Indonesia.
Seluruh jiwa raga, bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Dosakah yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi? Benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut menyintanya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga, bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Dosa yang dia kerjakan, sucikah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi? Terjadilah.
Voice of Indonesia.
Tiba-tiba redup langit gelap, hati yang bahagia terhentak seketika. Malapetaka seakan melinam, berita menggelegar. Kasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga. Tak percaya tapi nyata. Ku berjemput di sisi jasad. Doa tulus dan air mata. Segala dosa ku mohonkan ampunannya. Seakan terjawab dan kau terima.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Merci de votre fidélité et restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voyeuse.id. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.